On file à Arles tout de suite pour la grande table d'été où on retrouve Lucille Comeau. Bonjour.
Bonjour et merci Antoine, bienvenue autour de la grande table d'été. Et oui, la Grande Table commence son petit tour des festivals avant Avignon la semaine prochaine, avant Marseille le 18 juillet. Nous sommes aujourd'hui installés à l'espace Fanton à Arles, en public, au cœur des rencontres photographiques. À 13h30 environ, nous recevrons la photographe Valérie Belin. Juste avant, nous écouterons le groupe Azarac qui jouera un morceau en direct. Mais tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Plossu. Bonjour, vous êtes photographe. Un parcours qui commence en autodidacte dans les années 60 à Arles. Cette année, c'est la première exposition qui vous est consacrée exclusivement et on peut la voir salle Henri Comte. Elle rassemble des photographies que vous avez prises dans les années 70 et les années 80 dans l'Ouest américain et s'appelle Western Colors. Et on fera dialoguer avec vous trois jeunes photographes qui sont étudiants ici, car Arles, c'est aussi une grande école de photographie. Ici, en plateau, Pauline Rousseau, Clémence Roche et Barnabé Moinard. Merci à vous trois de nous avoir rejoints et n'hésitez pas à interpeller avec moi Bernard Plossu. Bernard Plossu, peut-être un mot à propos du titre de l'exposition, Western Colors, pour quelqu'un qui s'était un temps détourné de la couleur. Est-ce que c'est la couleur de ces images qui fait la cohérence de l'exposition ?
Oui, bien sûr, c'est la couleur et la technique du procédé Fresson, qui est une technique d'une famille qui vit à Savigny-sur-Orge, qui est vraiment sans doute le plus grand tireur couleur qui existe, c'est un artisan. Le titre, on réfléchissait avec l'éditeur textuel et Sam et les rencontres d'armes. Et au dernier moment, j'ai tenté le coup de demander à un vieil écrivain cowboy qui s'appelle Max Evans, qui est le copain de Sam Peckinpah, son scénariste. Et il a répondu en disant qu'il voulait écrire sur ses photos parce qu'il a été élevé là. Et il a fait un très beau texte. Et donc, on a changé l'idée du titre en hommage à Max Evans, qui est un écrivain western. Il y a eu un livre de lui en français, The High-Low Country, c'est sorti. Du coup, on l'a appelé Western Colors, en hommage au western.
Alors, ces couleurs, elles sont très tendres. Il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de gris, du blanc, de l'ocre. C'est quelque chose d'assez poudreux. Comment vous les décririez, ces couleurs-là ?
Je les décrirais comme des photos des saisons, parce que ce ne sont pas des photos que j'ai fait en passant en voyage, mais j'ai habité longtemps là-bas. Dans un tout petit village, il y avait un seul feu rouge et beaucoup de neige. J'étais à 2200 mètres. C'est des photos de saison, d'automne, de printemps. C'est en aucun cas le cinémascope que j'aimais tant étant enfant. En fait, j'ai découvert que le vrai Ouest ressemblait plus à des tableaux de Bruegel qu'à des films de John Ford.
Le procédé Fresson, on va y revenir parce que c'est quelque chose de très important dans votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement en quoi ça consiste exactement, Bernard Plossu ?
Alors, ce sont des tirages au charbon. C'est la quatrième génération. Donc avant, moi j'ai rencontré le père à l'époque dans les années 70, je travaillais avec eux depuis 67. Donc le père était Pierre, après Michel qui est à peu près mon âge, maintenant c'est Jean-François qui les tire. Je crois que le mieux pour comprendre ce que c'est qu'un tirage au charbon, c'est de mettre le lien atelier Fresson. Et je peux pas vous faire un cours de technique, disons que ce qui rend dans le Fresson c'est le grain. Et on aime, on n'aime pas, mais ça donne une certaine douceur aux images, je trouve, qui moi me plaisent.
Pauline Rousseau, Clémentine Roche, Barnabé Moinard, peut-être un de vous trois, est-ce que c'est un procédé que vous connaissez ? Est-ce que c'est un procédé que vous avez déjà pratiqué ? Barnabé.
C'était un procédé que je connaissais et que je n'avais jamais pratiqué pour des questions de... Voilà, c'est pas facile à trouver et à réaliser, à avoir le temps pour le faire, mais... Mais voilà, c'est des procédés qui rappellent aussi que la photo se joue beaucoup sur le papier, sur le tirage final, et que ça change tout, souvent.
Quand est-ce que vous avez décidé, vous, Bernard Plossu, d'arrêter de tirer vous-même vos photos ?
Je crois que c'est après les voyages au Sahel, en noir et blanc, c'est en couleur, j'avais tiré. C'était tellement difficile de tirer les photos d'Afrique que j'ai renoncé, je tire pas très bien. Mais bon, ce qui me plaît, c'est de faire des photos. Je veux dire, c'est pareil, Denis Roche, dont on a fait beaucoup récemment, ne tirait pas ses photos, mais on sait de quoi on parle.
Pauline Rousseau, vous tirez vos photos ?
Oui, en fait, nous, c'est vrai qu'on a appris à l'école aussi bien les procédés argentiques que les nouveaux procédés numériques. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie de l'apprentissage qui passe aussi évidemment par le tirage et pas juste par la prise de vue. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que c'est vraiment tout un processus qui commence peut-être dans l'élaboration mentale de l'image jusqu'à effectivement son résultat papier, qui peut parfois prendre du temps aussi, puisque on n'a pas toujours du premier coup le résultat qu'on voudrait, notamment au niveau des couleurs.
Clémentine Roche, je vois que c'est acquiescé.
Oui, moi aussi. C'est un point très important dans le travail, en fait. Le choix de vraiment du rendu, de ce qu'on veut montrer, la manière dont on le montre. Ouais.
Au fond de l'exposition Bernard Plossu, il y a la reproduction sur un pan de mur entier d'une photographie de Monument Valley. Je suis très troublée parce que vous êtes en train de faire des photos pendant que je vous parle, mais je vais prendre l'habitude. Elle est centrale pour vous, cette photo, la photo de Monument Valley, parmi toutes les photos que vous avez faites dans l'Ouest américain. C'est un cliché, Monument Valley. Pourquoi vous avez choisi celle-ci?
J'aime beaucoup, c'est Stéphane Vraska, le commissaire, qui a choisi de l'agrandir et de montrer la petite devant. Et je trouve que ça traduit bien ce que j'avais vécu en voyant les westerns que j'avais de 12 à 16 ans. Mais j'aimerais ne pas parler que de moi. Je voudrais juste dire une toute petite parenthèse. C'est que rien que pour l'expo de Don McCullin, il faut venir à Arles. On a un géant de l'histoire de la photographie et je remercie beaucoup les rencontres d'avoir fait cette exposition. Pour moi, qui ai 71 ans, voir une expo de Don McCullin, c'est un cadeau.
Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire une des photos qui vous a le plus marqué, qu'on peut voir ici?
De McCullin, pourtant, ce n'est pas le genre de choses que je fais, mais c'est un géant d'histoire de la photographie. Et ces photos de paysages tranquilles, après toutes les horreurs, toute la difficulté qu'il a vue, il faut pas rater ça.
Vous les connaissez, ces photos, tous les trois, Barnabé?
Oui, et c'est vrai que là, ce qui était intéressant, c'est de voir cette exposition et de justement, moi, je suis rentré en m'attendant à voir l'horreur dont vous parliez. Et en même temps, et en fait, non, on découvre aussi tout un autre aspect de son travail, à la fois très calme et en même temps une Angleterre et un Royaume-Uni qu'on ignore il y a 30 ans à peine et qui est assez surprenant.
On va parler de western quand même, on va parler un petit peu de vous via les westerns, Bernard Plossu. Vous les citez tout le temps, les westerns, c'est systématique dans toutes les interviews que vous donnez, et vous citez systématiquement Robert Aldrich et son film Veracruz. Pourtant, dans mon souvenir, mais il est vieux, c'est un film où il y a assez peu de paysages et surtout assez peu de plans larges. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce film-là particulièrement?
Mais Robert Aldrich, c'était à sa manière un photographe social. Dans Veracruz, il était du côté de Juarez, qui est assez rare pour un cinéaste américain de cette époque. Dans Apache, c'est un des premiers westerns pro-indiens. C'est l'histoire d'un Apache qui est envoyé en Oklahoma, qui arrive à s'échapper. Il revient au pays à pied, et là, il y a un plan où il est de dos, où il voit sa montagne, et c'est magnifique. Je suis hanté par ce plan. En fait, ce sont des cinéastes, des gens comme lui, qui ont transformé le western en pro-indien sans pour autant en faire une mode, mais avec vraiment beaucoup de cœur. Et c'était important de dire ça à l'époque. C'est pour ça que j'aime tant Robert Aldrich, hein. Ou Sam Peckinpah, mais c'est autre chose, Peckinpah. On croit que c'est une brute, mais c'est un tendre.
On va y revenir. Et quand on lit votre texte qui ouvre le catalogue, on se rend compte que pour vous, le western, enfin l'ouest des États-Unis, c'est le lieu d'une absence, celle des Indiens, justement. Comment est-ce qu'on photographie, Bernard Plossu, ce qui n'existe pas?
Alors, on peut aller dans les pueblos indiens, mais c'est interdit de photographier. Donc, j'y suis allé, mais on ne fait pas de photos. Par contre, je connais bien le pays, j'ai étudié les cartes de pas mal de guerres, enfin, où les Chiricahuas et les Mescaleros, toutes les tribus Apaches se cachaient. J'ai passé du temps dans des petits canyons qui étaient leurs cachettes. Je suis allé sur les traces de Cochise. Et on photographie un paysage, on sait qu'ils étaient là. Et c'est un hommage silencieux, mais bon... Ils sont là, mais bon. Hein. Par contre, ils vivent dans... Certaines tribus se sont bien intégrées. Dans le cas des Apaches, il semblerait qu'ils aient construit des casinos qui marchent bien. Ils arrivent à gérer. D'autres tribus, comme les Hopis, sont restées extrêmement primitives et très pures, interdites de photographier, de dessiner, etc. C'est même pas la peine d'essayer. C'est l'histoire d'aujourd'hui.
Vous avez passé beaucoup de temps, en fait, aux États-Unis dans les années 60, puis à nouveau dans les années 70 et 80. En 73, je crois, quand vous y retournez, ou 72, qu'est-ce que vous étiez venu y faire? Des photos ou
non, autre chose? Non, je suis arrivé en 66, en fait. Non, c'était des copains vitniques, on était sur la route. Puis il y en a un qui m'a dit, je vais en Californie. Je me suis retrouvé catapulté en 66, comme ça, en plein, par chance, par hasard, en plein dans ce qui se passait, quoi. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas de vedette. quand on va à un festival de folk music en Amérique, on est à côté de John Baez et d'Allen Ginsberg, ils sont dans la foule. Il n'y a pas ce côté vedettariat protégé par des gardiens. Tout le monde est pareil, quoi. Et ça, c'est bien, ça, c'est bien.
Il y a beaucoup de routes, beaucoup de routes beaucoup dans de votre route, exposition. Oui. Vous étiez en période beatnik, comme vous dites. Est-ce
c'est
que
la
ça
fin,
existe
hein, c'est la les fin années 50, mais c'est la fin. C'est juste entre les deux, entre les beatniks et les hippies, quoi.
Est-ce que ça existe, la photo, du coup, la photo hippie ou la photo beatnik, comme
bien
il
sûr.
Existe une littérature beatnik ? Ce serait quoi, du coup, les caractéristiques esthétiques de cette photo-là ? Vous revendiquez
ah, oui,
de
ça ? Oui, tout à fait, oui. Il y a des photographes qui ont été très spécialisés dans ça, comme Baron Wallman ou John Cohen. Il y a des gens qui ont fait des choses très belles autour de Dylan, Woody Guthrie. Mais il y a toujours une... On parle toujours dans la littérature, la Beat Generation, etc. Mais finalement, avant, il y a eu Aldous Huxley qui parlait de la mescaline, etc. Bon, il y a ça aussi. Et bon, il y a toujours des... Je crois que finalement, c'est marrant, mais on retrouve souvent... Il y a une grande expo en ce moment sur la Beat Generation à Beaubourg. Et j'ai vu citer plusieurs fois le nom de Céline. C'est marrant, comme quoi Céline a certainement influencé Kerouac et les autres. Hein.
Vous aviez rencontré d'ailleurs Allen Ginsberg et Henry Miller. Comment vous les aviez rencontrés par hasard dans un concert de folk ?
Ils étaient dans la foule avec moi. Bonjour, ça va ? Oui, voilà quoi.
Je crois que vous étiez tellement intimidé que vous n'avez pas osé les prendre en photo.
Non, Ginsberg, si, il était devant moi. La photo que j'ai, il est comme vous et moi quoi. Sure, pas de problème quoi. Il faut casser de toute façon ce truc de végétarien. C'est ridicule quoi. Pas de tapis rouge.
Est-ce que vous trois, il y a des lectures, parce que je sais que Bernard Plossu est très influencé par des choses extérieures, donc le cinéma évidemment, on va y revenir d'ailleurs, mais aussi la littérature, et notamment la littérature de cette époque-là. Est-ce que vous diriez, un des trois, que la littérature est une source d'inspiration directe dans votre travail ?
Oui,
Clémentine Roche.
Moi tout à fait, oui. Aussi bien ce que je peux lire que la construction en fait, du récit, enfin, la manière dont un livre est fait, moi c'est un peu comme ça aussi que je construis mes projets. En fait.
Oui, parce qu'il faut expliquer un petit peu, un de vos projets notamment, c'est de construire, de vous réapproprier des images autour d'un personnage qui est fictif, qui s'appelle P. Serait en fait le personnage central de tout un développement photographique.
Oui, alors ça passe par de la réappropriation d'images, des créations qui sont miennes, et voilà, ça se construit comme des chapitres en fait, d'un récit. Qui est le récit de paix dans ce projet. Oui.
Bernard Plossu, Western Colors, c'est une sorte de journal de bord pour vous ?
Ah oui, parce que de toute façon, je sais faire que ça. Hein. Je fais partie des types qui ont toujours l'appareil autour du cou. Donc, que ce soit dans Western Colors, quand j'ai évité aujourd'hui à Arles, je viens de faire deux rouleaux ce matin. Je suis un peu un dinosaure. Hein. Mais bon, par contre, je n'arrive pas à passer au numérique. Ça, on pourra en parler après.
On va y venir.
Et moi, j'y arrive pas. C'est marrant. Je sens pas.
Vous êtes photographié aussi. Par exemple, dans l'exposition, il y a un tirage argentique d'une photo de vous ou qui vous représente vous. Vous êtes dans un lieu qui s'appelle le Canyon des Français. Qu'est-ce que c'est que ce lieu, le Canyon des Français ?
Le quoi, là ?
Le Canyon des Français ou Frenchman Canyon, j'ai pu lire.
C'est quoi ça ?
Alors, j'ai lu ça quelque part, peut-être vous ne vous en souvenez
pas.
Ah
non, j'ai pas vu.
En tout cas, vous avez souvent photographié les déserts, les grandes étendues. J'ai lu que vous aviez réalisé vos premières photos pendant un voyage au Sahara quand vous aviez 13 ans. Elles ressemblaient à quoi, ces photos, Bernard Plossu ?
Ça, c'est un coup de chance, parce qu'en fait, en 1937, mon père était parti avec Frison Roche au Sahara pour traverser le Grand Ergue. Et ils avaient fait du ski. Et papa faisait les photos de Frison Roche faisant du ski avec les chameaux et tout. Donc mon père a voulu me montrer ça. J'avais 13 ans, il m'a emmené à Gardaïa, à Vargla. Il m'a offert un Brownie Flash. Et bon, ça a été le voyage initiatique. Mais la notion de voyage initiatique est importante. Par exemple, on parle beaucoup de l'Amérique en ce moment. Mais il faut rappeler qu'il y a eu la même chose vers l'Orient. On a un aventurier extraordinaire qui est Nicolas Bouvier, qui est parti de Suisse, qui est allé jusqu'en Orient. Il a fait des photos toute sa vie. Ce serait génial à Arles de voir une expo de Nicolas Bouvier, par exemple. Il n'y a pas que des Américains qui ont fait l'aventure. Quand j'étais à Goa en 1970, on venait du monde entier.
Tous les trois, est-ce que vous vous souvenez de votre première photo ou d'une première photo dont vous êtes un peu fier ? Je ne sais pas, Pauline Rousseau, par exemple.
Moi, en fait, j'ai un parcours. J'ai pas du tout commencé la photographie quand j'étais très jeune. Alors que c'est quand même le cas de beaucoup d'entre nous qui ont commencé à expérimenter dès l'adolescence, comme vous apparemment. Moi, c'est pas du tout mon cas, en fait. Je suis venue finalement à la photo assez tardivement. Et peut-être que une des photographies, on va dire une de mes premières photographies que j'aime encore, c'est une photographie d'un boxeur dans un vestiaire, très épuisé, voilà.
Barnabé, peut-être ? Première photo ?
Je me souviens vous pas souvenez du pas. Sujet, non, mais je crois que c'était déjà un collage ou une intervention quelconque sur une photo sans savoir où aller ni pourquoi, mais voilà.
Non, parce que ce qui est particulier, c'est que vous partagez un peu ça avec Clémentine, c'est le fait de travailler sur des photos. C'est-à-dire que vous prenez des photos et puis après vous les montez et vous faites des assemblages parfois monumentaux de collages.
Oui, voilà, j'avais présenté des choses, presque un mur d'images ou tout simplement une très grande image faite d'images. Mais sinon, ça se joue de plus en plus sur des images autonomes où il y a eu une manipulation, où il y a eu des interventions plastiques.
Vous m'avez peut-être vu venir, Bernard Plossus, qu'on entend là, c'est un extrait de La Porte du Paradis de Michael Cimino, disparu le week-end dernier, grand réalisateur d'un western, un film qui se déroule dans le Wyoming, donc dans l'Ouest américain. Est-ce que c'est un film que vous connaissez, ou à défaut, est-ce que c'est un lieu, le Wyoming, où vous avez erré ?
C'est un film récent ?
Non, c'est un film des années 70, si je ne dis pas de bêtises, fin des années 70.
Non, je pense. Comment il s'appelle ?
Il s'appelle La Porte du Paradis. Michael Cimino.
Non, je ne pense pas l'avoir vu. Je ne suis pas allé au Wyoming. Non, je ne connais pas. Non.
En tout cas, le directeur de la photo du film s'appelle Vilmos Siegmund. Il est aussi décédé d'ailleurs cette année. Il a travaillé avec Romer Altman, notamment. Romer Altman, qui est cité dans le catalogue de votre exposition. Et surtout, dans l'exposition, il y a une photographie que vous avez faite sur un de ces tournages. Quelle est l'histoire de cette photo, Bernard Plossus ?
C'est un jour, j'ai un coup de fil de Robert Altman qui me dit « Bernard, je suis Robert Altman ». J'ai répondu « Bien sûr, c'est une blague ». Et c'était lui. Il avait vu une photo d'une fille et une camionnette, devant une camionnette. Il voulait que je fasse la même de Kim Basinger dans « Fool for Love ». Donc je l'ai rencontré et il m'a beaucoup aidé. On a parlé beaucoup. Et la photo dont vous parlez, c'est Sam Shepard qui marche devant une baraque. Et en fait, ce qui est amusant pour la petite histoire... Le tournage était à 3 km de l'école où allait mon fils. Donc j'amenais mon fils à l'école et après j'allais tourner avec Altman. C'était marrant.
Mais quel était votre rôle du coup sur le tournage ?
De faire des photos à ma manière. Il voulait que je fasse des portraits. Mais avec Robert Altman, je crois que j'ai rencontré vraiment quelqu'un de très grande intelligence. Enfin, c'est vraiment quelqu'un. Enfin.
Personne ne vous a jamais proposé, Bernard Plossus, d'être le directeur de la photographie sur son film ? Vous n'avez jamais eu ce genre de proposition ?
Photographe de plateau ?
Oui, ou non, photographe directeur de la photo sur un film ?
Non. Ah ouais, c'est non. Pourquoi ?
Un regret.
Oui, oh, je suis jeune encore, j'ai le temps, il ne reste plus que 10 ans.
Le cinéma, c'est quelque chose qui vous inspire ? Vers quoi même peut-être vous voudriez aller les uns, les autres ? Pauline Rousseau, Clémentine Roche, Barnabé Moinard ? Pauline ?
Oui, je pense que, évidemment, Le cinéma, c'est de l'image. Et ce qu'on fait avant tout, nous, c'est de l'image, en fait. Je pense que, de toute façon, il y a beaucoup aussi de connexion entre les arts visuels en général, la photographie, la vidéo, etc. Ou même le genre de travail plus comme Barnabé, par exemple, qui fait des manipulations. Après, moi, je dirais que je suis beaucoup inspirée par la peinture aussi, puisque je réalise de la mise en scène, souvent, dans mes photographies. Et donc, souvent, quand je compose les images, c'est vrai que j'ai dans la tête aussi beaucoup de tableaux, et pas seulement des films.
Bernard Plossus, il y a quelque chose que vous n'aimez pas, c'est quand on vous dit que vos images, j'allais dire, que vos photographies ressemblent à des peintures.
Oui, ça n'a rien à voir. C'est le problème avec le procès des frissons, comme il y a du grain et que c'est poétique. Oh, on dirait un tableau. C'est pas du tout pareil. La peinture, c'est la peinture. La photo, c'est la photo. L'écriture, c'est l'écriture. Le cinéma, c'est le cinéma. trouve... à mon avis.
Ouais. Vous comprenez ça, justement, ouais, vous comprenez que ça vous énerve pas, vous, qu'on dise, ça ressemble à Valérie Belin, par contre, qu'on va recevoir après, par exemple, elle revendique tout à fait la ressemblance de certaines de ses œuvres avec du Warhol. Vous ?
Ah ouais, je sais pas.
Barnabé.
C'est une bonne question, non ? Pense que. Je crois que chaque personne qui va voir une exposition la voit comme il veut, et s'il veut que ce soit de la peinture, on va pas lui dire non, c'est pas de la peinture, c'est de la photo, t'as rien compris. Donc oui, ça peut énerver, mais en même temps, bon, voilà, on montre des choses, si c'est compris de telle ou telle façon, il faut faire avec. Je pense qu'on n'est pas toujours à côté de sa photo à dire non, non, c'est ça et pas autre chose. C'est un moment, il faut laisser partir, et puis voilà, si ça marche pas, c'est peut-être que le problème vient de nous aussi.
D'autant que vous, ce que vous faites, Barnabé, c'est quelque chose de très plasticien, précisément. C'est une démarche très plasticienne sur la photographie.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on en... Il faut bien préciser que je pars toujours de la photo pour arriver à de la photo. Mais qu'entre-temps, il peut y avoir beaucoup de choses, de la peinture, du dessin, des déchirures, beaucoup d'interventions. Mais à la fin, on retrouve toujours quelque chose de plat et de plan.
Bernard Plossus, cette démarche de travailler à partir de photographies pour peut-être en faire quelque chose, autre chose, complètement autre chose, c'est quelque chose que vous avez pratiqué ou qui vous viendrait à l'idée ?
Bon, je fais des petites choses expérimentales pour moi qui seraient plus proches de vous trois, je pense, que ce
qu'on
voit d'habitude.
Voir,
Non, ce qui serait intéressant, je me considère dans la sécurité sociale, je suis auteur. Je trouve que c'est un très bon mot pour un photographe. J'appartiens à l'UPP, l'Union des photographes professionnels, qui est une organisation formidable qui soutient les photographes. Et j'aime bien cette notion d'auteur face à la notion d'artiste. Et je pense que vous, dans votre génération, vous avez tout à fait le droit légitime de revendiquer le mot d'artiste, et que moi, je serais plutôt un auteur, comme le dit mon papier professionnel.
Comment vous le comprenez,
pensez, ouais,
Clémentine?
Je suis assez d'accord avec ça parce que, enfin, en tout cas dans l'école, nous on a une vision un peu de ce que c'est la jeune photographie, en tout cas dans cette école. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est moins cloisonné qu'avant en fait. Il y a moins la photographie d'un côté, la vidéo qui va être à côté. Voilà, on a des gens qui font de la photographie, qui peignent et qui présentent l'ensemble et qui en font quelque chose après. Donc, ouais.
Vous, pendant un temps, Bernard Plossus, vous en avez fait même un métier, puisque vous avez travaillé à la commande pour des grands titres de presse un peu partout dans le monde. Quels souvenirs vous en gardez ? Et surtout, est-ce que vous avez l'impression que vous avez gardé quelque chose de positif de cette expérience-là que vous mettez toujours en œuvre aujourd'hui comme photographe ?
La commande, on est obligé d'être bon, parce que si on rate une commande, ça c'est et on n'en a plus. Donc, non, parce qu'il y avait un grand critique qui avait dit les photographes font le pire de leur travail dans les commandes. C'est absolument faux. Enfin, heureusement qu'on a des commandes, il faut bien vivre. Et la commande, il faut se dépasser, il faut être meilleur encore il faut se dépasser. Sinon, très vite, une réputation peut se défaire et voilà, qu'il n'y a plus de commandes. Donc, c'est exigeant, mais je le conseille à tous. Quel que soit ce qu'on fait, qu'on soit auteur, artiste, photographe, une commande, il faut réfléchir et la réussir.
C'est une perspective pour vous trois, Pauline Rousseau.
Je pense que c'est tout à fait un conseil pertinent, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant dans la commande, c'est que finalement il y a un certain challenge, puisque les contraintes sont fortes, et arriver à faire quelque chose de finalement créatif et qui nous ressemble tout en satisfaisant le commanditaire, je pense que c'est un bel enjeu et qui permet aussi parfois justement de se positionner, de réfléchir comment voilà, arriver à montrer quelque chose de soi à travers des contraintes assez fortes. Et nous on est jeunes encore, donc on n'a pas eu l'occasion d'en avoir beaucoup, mais c'est vrai que dans les peu d'expériences que j'ai eues, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et je pense qu'aussi il faut être aussi un peu réaliste. Et quand Bernard Plossus vous dit il faut bien manger, c'est vrai qu'il y a un moment où c'est aussi des questions qui se posent quand on se destine à être artiste et jeune artiste.
Vous avez fait des belles photos en plus, Bernard Plossus. Des photos de commande, il y en a que vous revendiquez toujours, que vous trouvez toujours belles.
Ce serait la catastrophe.
Par exemple, vous en avez une en tête ?
En plus, dans une commande, on peut très bien arriver à faire deux ou trois photos pour soi aussi. Au passage, qui sont peut-être pas prises, mais qui serviront à ce qu'on fait pour soi.
Il y a un tournant dans votre esthétique, Bernard Plossus, enfin, il y en a eu plusieurs, mais ça a été lors d'un voyage au Niger en 75, où vous décidez vraiment résolument à ce moment-là de repasser au noir et blanc. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait dans les paysages nigériens qui vous a fait changer d'avis sur la couleur à ce moment-là ?
C'est pas sorcier, c'est que c'est tellement fort comme endroit. C'est pas que le paysage, c'est qu'au Niger, dans les années 70, il y a encore toutes les tribus Peul, Bororo, qui nomadisent. C'est même les Bororo, c'est même les seuls qui ont refusé l'islam et le monde catholique. Ils sont indépendants. C'est rarissime. C'est comme les Indiens d'Amérique, quoi. Les Touaregs, qui sont une tribu extraordinaire. Donc bon, mais l'Afrique change très vite, hein. Plusieurs pays où je suis allé à cette époque-là, je pourrais plus y aller maintenant. Mais bon, ça a compté dans ma vie. Peut-être, en fait, que les tribus que j'ai rencontrées au Sahel étaient les Indiens que je cherchais en Amérique. Vous voyez ce que je... Hein?
Toujours cette présence-absence.
Oui. Pas dans vos photographies. Chez la génération Carlos Castaneda, tout de même. M'excuserez, mais bon, on n'y peut rien. Vous lisez, vous, des choses comme ça, les jeunes, Castaneda? Ça vous parle ou c'est rien?
C'est un anthropologue, je vous souffle. C'est à peu près le moment.
On en reparlera.
Vous allez devoir le lire ce soir, faire un petit compte-rendu. C'est à peu près le moment, Bernard Plossu, où vous fondez, là, au milieu des années 70, aux côtés de Claude Nori, et d'ailleurs avec d'autres artistes, un collectif qui s'appelle Contre-Jour, qui était aussi, je crois, une maison d'édition, enfin, une manière de publier. Qu'est-ce qu'on y défendait, et peut-être contre quoi vous étiez constitué à ce moment-là, en tant que groupe, Bernard Plossu?
En fait, il y a eu toute une génération qui s'est créé. Ça a surtout commencé en Espagne, en fait, avec Nueva Lente. Et puis, il y a eu Contre-Jour avec Nori, qui montait de Toulouse et qui a lancé Contre-Jour. Après, il y a l'amitié avec Gilles Morat, un ancien directeur des rencontres, d'ailleurs, qui avait créé les cahiers de la photographie, avec Denis Roche et moi. Et bon, c'est des époques. Mais je crois qu'il faut qu'à chaque époque, il y ait ces mouvements parallèles, un peu underground, et qui réveillent les choses, quoi, qui remettent toujours tout en question.
Les collectifs, c'est quelque chose qui vous parle encore à vous trois, les jeunes, j'allais dire. C'est des formes où vous auriez l'impression que vous pourriez travailler, vous constituer en groupe. Barnabé.
Pour ma part, non. Enfin, j'en connais, etc. Mais je suis pas sûr d'avoir très envie même de travailler en groupe. Mais bon, peut-être que ça arrivera.
Mais peut-être ils en ont pas moins besoin, parce que nous, on n'avait rien. Quand j'ai fait de la photo, il n'y avait pas d'expo photo. On ne savait pas ce que c'était une exposition de photo. Vous avez beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin peut-être de ce dont on avait besoin, nous.
Oui, puis vous avez une école, en effet. Donc vous êtes déjà, de toute façon, une sorte de communauté, ne serait-ce que par vos
études.
Voilà,
c'est ça, la communauté, je pense.
Alors que vous, Bernard Plossu, pas d'école.
Moi, j'ai même pas mon bac, moi. J'ai rien, moi. Non, l'école, c'est sur le terrain, hein. Mais c'est vrai, peut-être notre grande différence entre nous, c'est que vous avez cette école extraordinaire. Il y en a d'autres en France, et il n'y avait pas ça, tu vois. J'ose pas dire de mon temps, mais bon, excusez-moi, c'est un peu de mon temps, quoi.
Vous revendiquez, Bernard Plossu, une photographie sans style et également un autre concept que j'ai trouvé, que j'aime bien, qui s'appelle le surbanalisme. Mais le surbanalisme, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est surbanal. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, surbanal? Une photographie surbanale, Bernard Plossu?
C'est pas compliqué. Il suffit de voir les dessins du grand dessinateur français Chaval. Bon, Chaval, il faisait trois petits dessins. Deux femmes qui parlent au coin d'une rue. Deuxième dessin, un lion qui passe. Elle le regarde. Troisième dessin, il n'y a plus de lion. Elle continue la conversation. Et je me suis rendu compte que Chaval m'a enseigné ça, que les choses banales sont plus surréalistes que les choses surréalistes. Donc j'ai fait cette contraction, le surbanalisme. Mais c'est pour rigoler, quoi. C'est pas des bonnes photos. Mais bon, c'était marrant, quoi. J'aime beaucoup Chaval. En fait, j'aime beaucoup les dessinateurs. Bosque, Chaval. Ça compte.
Comment vous comprenez cette expression-là? Pauline Rousseau, Clémentine Roche. Ça vous parle à vous?
De surbanal?
Mmh.
Ouais. Bah, oui, ouais. C'est. Pas tant dans. Moi, je fais pas trop de photographie du quotidien, mais dans les sujets. Voilà, dans le dernier sujet que je traite et que je montre ici, oui, c'est une histoire tout à fait. Ordinaire, quoi. Donc oui.
Bernard Plossu, vous avez un appareil photo que vous aviez autour du cou. Vous avez fait des photos là pendant l'émission, je précise, pour les gens qui ne sont pas devant nous. C'est quoi comme appareil photo? C'est toujours le même que vous utilisez?
C'est un vieux Nikon, très lourd. Voilà, c'est avec un objectif de 50 mm. Et puis,
Vous y tenez à cet objectif de 50 mm. Qu'est-ce qui vous permet de faire?
J'ai fait les autres, j'ai fait le grand angle, le téléobjectif, c'est pas pour moi. Même s'il y a des photographes que j'aime, comme McCullin, c'est du grand angle. Mais c'est pas ma vision à moi. Moi, j'ai besoin de cette rigueur du 50 qui est, c'est un peu comme la peinture de Corot. C'est très, très sobre, le 50 mm. C'est sans aucun effet. Je peux citer un petit truc, c'est Gauguin qui disait, les effets, ça fait bien, ça fait de l'effet. Faut éviter ça.
Ça vous parle, cet objectif? Pauline Rousseau.
Je pense que, enfin, moi, en tout cas, dans ma pratique, j'ai pas un appareil photo que j'utilise tout le temps. Mais après, je rejoins aussi Clémentine à ce propos, c'est-à-dire que moi non plus, je fais pas vraiment de la photo tout le temps. J'ai pas d'appareil photo autour du cou comme vous, par exemple. Et en fait, moi, j'aime bien aussi adapter finalement l'outil au sujet. Donc, je vais pas utiliser le même type d'appareil photo. Si je fais un portrait ou si je photographie, si je fais une mise en scène. Et de la même manière, je pratique aussi bien l'argentique que le numérique. Donc je pense que voilà, c'est vraiment chacun a des pratiques différentes. Mais moi, j'aime bien l'idée aussi qu'on n'est pas obligé de choisir finalement et qu'on peut adapter vraiment l'outil au propos.
Le numérique, Bernard Plossu, vous vouliez en dire un mot ?
Non.
Vous ne vouliez finalement plus rien en dire. Formidable.
Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que grâce aux écoles, ils apprennent ce que c'est qu'une chambre, ce que c'est qu'un Hasselblad. Les écoles, c'est pas que le 24-36, comme des gens comme moi ou comme Guy Le Carrec, etc. Les écoles, vous avez accès à toutes les tailles de négatifs, si j'ose dire. Non ? C'est bien, non, je pense. Moi, je ne saurais pas faire une photo à la chambre, tu vois. Vous allez m'apprendre.
Avec plaisir.
Vous dites, dernière question, Bernard Plossu, que vous aimez les photos ratées. C'est quoi une bonne photo ratée ? Est-ce qu'il y en a une dans l'exposition Western Colors ?
Non, il faut une heure pour répondre à ça. Mais c'est l'essence même de l'histoire de la photographie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que Robert Franck est si fort ? C'est que ce n'est pas des bonnes photos, c'est mieux que ça. C'est un degré au-dessus. Et il y a des photos qui sont excellentes de grands photographes, elles sont parfaites. Bon, si on aime la perfection, bingo, ça roule. Mais il y a des gens qui vont au-delà de la perfection, ils ratent un truc, et c'est ça qui est fort. Alors, ça va très loin, parce que maintenant, on en est à faire un culte de la photo trouvée, qui sont toujours ratées, et ça devient une mode. Mais bon, il n'y a pas de secret. On a un coup de blues, on sort un bouquin, on sort un Robert Franck. C'est pas des photos réussies, c'est bien mieux que ça.
Clémentine Roche, sur les photos ratées, puisque vous réappropriez des photos qui ne sont pas toutes de vous, si j'ai bien compris. Vous réappropriez des photos ratées ? Vous les considérez comme ça ?
Pas forcément ratées, en fait, non. Oubliées, oui. Qui finiront très certainement oubliées ou jetées, ça m'arrive. Mais elles sont toujours liées à une histoire et je les retire pas de leur histoire, en fait. Je me les approprie pas, je les dis pas miennes. Elles restent... Elles appartiennent toujours à la personne, mais dans ces cas-là, oui, je les montre, quoi.
Vous les trouvez où ?
Ah, ça dépend.
C'est un secret. Ouais. Merci à vous beaucoup, Bernard Plossu. On peut voir l'exposition Western Colors, c'est salle Henri Comte, ici à Arles, à côté de l'Hôtel de Ville. Et je précise qu'un beau catalogue avec un très beau texte de vous a paru aux éditions textuelles. Et un grand merci à tous les trois, Clémentine Roche. On peut voir votre travail dans le cadre Une attention particulière. Pauline Rousseau et Barnabé Moinard, tous les deux, vous participez aux conversations photographiques d'Olympus qui se tiennent juste à côté, ici, dans l'espace Fanton. On vous souhaite le meilleur dans votre jeune parcours de photographe. Dans un instant, Valérie Belin sera notre invitée, mais tout de suite, toujours en direct des rencontres de la photographie d'Arles, c'est la session musicale programmée par Boris Pinault. Aujourd'hui, c'est le groupe Azarac qui s'est installé devant la scène de l'espace, à côté de la scène où je suis installée moi-même, de l'espace Fanton. Azarac, ce sont deux musiciens, Sukanta Bose, chanteuse traditionnelle du Bengale, et Alexandre Jurin, musicien français. Ils se sont rencontrés en Inde et autour de l'esraj, instrument traditionnel à cordes frottées et de la voix céleste de Sukanta, ils ont créé ensemble le duo dont la musique est une invitation au voyage et un hymne à la nature. Ils jouent ici, en direct d'Arles, une version courte de leur titre Aladdin. C'est à vous.
Aladdin, Paladin, Masun, Aliza. Aladdin, Paladin, Masun, Aliza. Aviv. lune bella, Madeleine Galilée, ma douce banane.
Merci à Zarak, installé devant la scène de l'espace Fanton en direct à Arles. Un grand merci à vous deux. Vous serez en concert le 14 juillet ici à Arles dans le cadre du festival Les Suds, puis le samedi 30 juillet prochain au festival de Cobrotte à Montcrabeau, et puis une date en octobre à Paris. Toutes les dates de toute façon seront sur notre site.
France Culture, la grande table d'été, Lucille Como.
Et bonjour Valérie Belin.
Bonjour.
Photographe, vous aussi, un parcours qui commence dans les années 90. On connaît de vous des séries comme Black Woman ou Lido, des portraits de femmes, d'hommes ou de mannequins. On ne sait jamais trop tant votre travail rend perplexe. La personne qu'on me donne à voir est-elle vivante ou est-ce que c'est une poupée ? Vous êtes de passage à Arles à l'occasion des rencontres photographiques. Vous serez ce soir à 22h au Théâtre Antique pour parler de votre œuvre à l'occasion du prix Pictet que vous avez reçu il y a quelques mois. Vous l'aviez reçu pour une série qui s'appelle Still Life. Still Life, ça veut dire nature morte en anglais. Comment est-ce que vous avez conçu cette série et qu'est-ce que ce terme-là de nature morte dit de votre œuvre ?
Alors le terme, déjà, on peut le remarquer, est beaucoup plus parlant en anglais qu'en français parce qu'il y a le mot « life » dedans. Et que pour moi, ces photographies d'objets sont éminemment une métaphore de quelque chose d'organique et de vivant. Donc c'est un travail qui vient après, comme vous le savez, plus de 20 ans de travail, et qui est un petit peu comme ça, comme un condensé de tout ce que j'aurais pu faire avant ce travail-là, et qui fait référence avant tout au memento mori, à la vanité, dans son aspect très composé et dans sa référence à la peinture. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à ce travail, c'est que à la différence justement de ces natures mortes peintes du XVIIe, ce sont des images qui témoignent d'un désordre du monde, d'où en fait le prix Pictet et d'où la légitimité en quelque sorte de ce prix qui m'a été décerné. Parce qu'en fait, tous ces objets ne relèvent pas d'un ordre du monde qui serait naturel, qui serait évident, comme peut l'être justement une peinture de nature morte, où la beauté de la nature est montrée, hein, du vrai gibier, des vraies fleurs, des vrais fruits. Là, tout est en plastique, donc tout est faux, tout est dénaturé.
Il y a également quelques pièces de vous qu'on peut voir ici dans une exposition qui s'appelle « Des gestes blancs parmi les solitudes », qui est une exposition qui pose la question de l'étrangeté de l'image. C'est quelque chose que vous travaillez depuis longtemps, cette inquiétante étrangeté qu'on vous a beaucoup attribuée et qui est un concept présent dans la littérature allemande et puis chez Freud surtout. Freud qui faisait correspondre ce sentiment au doute suscité par soit un objet apparemment animé dont on se demande s'il s'agit réellement d'un être vivant, soit par un objet sans vie dont on se demande s'il ne pourrait pas s'animer. On dirait vraiment que cette phrase est écrite pour décrire votre œuvre, Valérie Belin.
Oui, c'est vrai que dans mon travail, il y a une espèce de contamination comme ça des objets et des êtres qui fait que quand je photographie un objet, on a l'impression qu'il a comme ça un supplément d'âme ou une vie artificielle que je lui aurais influée par les moyens de la photographie. Et au contraire, quand je photographie des gens vivants, c'est un petit peu comme si je leur retirais de la vie. Là aussi, un processus éminemment lié au médium lui-même. Pour revenir à Freud, en fait, ce qui est intéressant dans cette notion d'inquiétante étrangeté, c'est le fait que Freud se voit dans un reflet et ne se reconnaît pas. Et en fait, c'est ce phénomène de non-reconnaissance, moi, qui m'intéresse, dans le sens où quand on voit mes images, on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose de connu, de déjà vu, mais on ne le reconnaît pas dans un premier temps. Et le trouble s'installe, et c'est ça qui m'intéresse.
Il y avait eu une rétrospective de vos œuvres au Centre Pompidou à Paris en 2015, l'année dernière, ça s'appelait, c'était un très beau titre, Les images intranquilles. Est-ce que cette intranquillité-là, c'est le reflet de votre propre rapport à l'image, à vous, Valérie Belin? Est-ce que les images vous mettent mal à l'aise? Et si oui, quelles images?
Alors, les images me mettent pas mal à l'aise, parce que sinon je pense que j'aurais vraiment du mal à en faire, mais elles me passionnent. Et elle me passionne dans une forme d'intranquillité, la passion étant par définition quelque chose qui vous rend tout à fait intranquille. Au-delà de ça, ce sont des images intranquilles parce qu'elles témoignent en fait de quelque chose qui n'est pas résolu, qui n'est pas univoque, qui, là encore je reparle de ce trouble, qui montre un trouble en fait, qui montre presque une sorte de maladie entre guillemets.
Valérie Belin, en 1989, vous obtenez un DEA de philosophie de l'art. C'était quoi vos sujets de recherche? C'était quoi qui vous intéressait à cette époque-là?
Alors, je me suis penchée sur la question de l'art minimal américain, parce que c'est un courant qui m'a énormément influencée. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi, l'importance de ce courant pour moi. Et donc, je me suis intéressée principalement à l'expérience physique d'une œuvre d'art minimal, en deçà des mots, en deçà du langage, avant le langage en quelque sorte. Et je me suis tout à fait, ce qui m'a permis de me rendre compte en fait que l'expérience artistique, esthétique plutôt, est une expérience qui ramène à soi. Et une œuvre d'art minimal est vraiment une œuvre qui vous ramène à soi. C'est par définition, c'est ça pour moi.
Quelles œuvres, par exemple, vous intéressaient à ce moment-là?
Ben, je pense par exemple aux sculptures de Richard Serra, qui était comme ça une expérience hors contexte, hors géographie, hors zone définie, dans justement cet espace entre l'urbain et la campagne qu'on appelle la zone. Et donc je parlais d'une expérience du zonard pour une expérience d'une œuvre d'art minimal, principalement à lui en fait, oui.
Vous avez commencé à faire de la photo au milieu des années 80. À quoi ressemblaient vos premiers clichés? Est-ce que vous avez eu des maîtres en photographie à ce moment-là?
Alors, ce qui est assez curieux, c'est que moi, je n'ai pas fait une école où on m'a véritablement enseigné ni une histoire de la photographie, ni la photographie elle-même.
C'était les Beaux-Arts de Bourges.
C'était les Beaux-Arts de Bourges. Et donc, je me suis forgé une culture photographique en sortant de l'école, en fait, en allant voir des expositions, en lisant des... en achetant des catalogues, etc. Donc mes influences sont plutôt de l'ordre de la sculpture et de la peinture que de l'ordre de la photographie, en tous les cas. Et je voudrais dire, si je puis me permettre, principalement de l'art baroque italien. Et donc je reviens à cet art minimal américain. Donc ce sont les deux grands courants qui ont fondé les constantes de ma démarche.
D'une certaine manière, vous rejoignez ce que nous disait Bernard Plossu, qui lui est un complet autodidacte et qui n'a pas appris la photographie auprès de qui que ce soit.
Non, je crois que ça ne s'apprend pas d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on développe hors des, hors des dogmes et des leçons de genre.
En 1994, c'est votre première exposition. Ce sont des photographies de cristaux en noir et blanc. Déjà un travail sur la matière et sur le relief. Qu'est-ce que cette matière-là, en particulier les cristaux, vous permettait de faire à l'image, Valérie Belland ?
Mais en fait, si vous voulez, j'ai eu une formation qui m'avait en quelque sorte interdit la représentation de la figure humaine, toute forme d'expressivité ou de narration, hein, tout ça étant lié hein, au courant moderniste en fait. Et donc, en sortant de l'école, il a fallu que je repeuple un univers. Ça me paraissait obligatoire, fondamental et vital. Et donc, je me suis tournée vers les objets, puisque la figure humaine était quelque chose de très tabou. Et donc, à cette époque, tous ces objets, que ce soit les cristaux, les miroirs, les argenteries, étaient des capteurs de lumière avant tout, et des métaphores, au-delà de ça, des métaphores d'une présence humaine, hein, comme si cette carafe était un corps traversé par la lumière. Donc tout se jouait au niveau, effectivement, d'une espèce d'osmose entre le caractère lumineux de ces objets et une ontologie de la photographie elle-même.
Pourquoi est-ce que c'était tabou à ce point-là, la représentation humaine ?
Parce que si vous relisez les écrits des artistes de l'art conceptuel et des artistes américains de l'époque, qui ont été vraiment mes maîtres, il était hors de question que l'artiste se dévoile de quelque façon que ce soit au travers de son œuvre. C'était une forme de dématérialisation, si vous voulez, de l'artiste et de l'œuvre elle-même.
Vous parlez des États-Unis, vous étiez exilé pendant un temps à New York. Qu'est-ce que vous alliez y chercher à New York à ce moment-là ?
Principalement la lumière, je pense, parce que c'est une ville qui a une lumière absolument unique et qui a aussi, à travers ses buildings très modernistes aussi, une espèce de d'aspect immatériel, en fait, hein, de par les jeux des reflets, de par cette espèce de densité de la ville et de la lumière, il y a quelque chose de très unique et de très lumineux et photographique.
Vous le disiez, vous avez beaucoup photographié d'objets, ça c'était jusqu'à la fin des années 90. La photographie d'objets, d'ailleurs, la photographie aussi de ce que vous ferez après, mais ça suppose une préparation, une installation, un vrai protocole avant de prendre la photographie. Est-ce que les deux sont indissociables et surtout, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps ?
Alors les choses ont changé depuis les origines, puisqu'avant je faisais des photographies, on pourrait dire, sur site, donc il n'y avait aucune mise en scène. Les photographies étaient réalisées, par exemple, des cristaux dans les boutiques, dans les grands magasins. Donc je profitais, en fait, de la mise en scène réalisée par ces espaces commerciaux pour mettre en valeur l'objet à travers des jeux de lumière, justement. Et puis ensuite, je me suis tournée vers une mise en place de studio, une photographie de studio. Et les choses se sont complexifiées jusqu'à aujourd'hui où la chose s'est encore déplacée, on pourrait dire, de la prise de vue à la post-production, où la prise de vue est moins importante qu'au départ de mon travail. Et c'est au niveau de la post-production que les choses la cuisine se réalise.
D'ailleurs, vous préférez qu'on parle d'image plutôt que de photographie. Est-ce que c'est justement parce que la photographie, en fait, en elle-même, n'est plus qu'une partie de votre travail, Valérie Belland ?
Je pense qu'on assiste aujourd'hui, avec le changement de l'outil, hein, à un déplacement de la photographie dans sa définition ontologique analogique au régime de l'image, qui est un régime beaucoup plus vaste, beaucoup plus décloisonné et beaucoup plus difficile, en fait, hein, pour celui qui crée.
Vous avez commencé à photographier des corps bodybuildés, en l'occurrence en 99. Ces corps, ils ressemblent à des corps mutants en noir et blanc, mais en fait, le noir et blanc est très très brillant, très métallique, c'est très particulier. Le corps bodybuildé, c'est le corps le plus travaillé ou le plus artificiel qu'on puisse trouver. Quelle était la genèse de ce projet-là, Valérie Belland ?
Mais en fait, ces sujets étaient choisis de manière très intuitive, et les bodybuilders, en fait, m'ont permis le passage de l'objet à l'humain, puisqu'en fait, ils étaient entre deux. Hein. Ce sont à la fois des êtres humains et à la fois des objets, à la fois des êtres métalliques et à la fois des êtres de chair. Donc c'est, je pense, pour cette raison précise que j'ai été vers eux.
Tous les jours, on demande à nos invités de la seconde partie, à nos portraits, d'apporter avec eux une chanson qui est pour eux leur tube de l'été ou la chanson d'un été de leur vie. Et vous, Valérie Belin, vous avez choisi ça. Bridge Over Troubled Water, qu'est-ce qu'elle a d'estival cette chanson-là pour vous, Valérie Belin ?
Alors, elle est liée à un souvenir, hein. C'est ça son caractère estival, parce que c'était vraiment un moment où je me retrouvais en plein été dans la voiture de mes parents, hein, qui écoutaient cette musique à l'époque. Et je me rappelle que c'était à la fois, pour moi, une de ces musiques tristes qui vous fait du bien, en quelque sorte, et qui était aussi liée à une espèce d'étirement du temps, que je pouvais ressentir à l'époque et dont on se rend compte un peu après, quand on grandit et quand on sort de l'enfance, et où l'été se raccourcit, où le temps se raccourcit, et principalement l'été, en fait. Et pour moi, cette chanson était liée à un moment où l'été était encore une sorte de temps distendu, infini, sans fin. Voilà, c'était pas pour vous faire pleurer, en tous les cas.
Valérie Belin, vous avez engagé à partir de plusieurs années, ça fait longtemps, un travail sur les stéréotypes féminins, blancs, métis, noirs. En fait, vous radicalisez un processus qui est à l'œuvre dans le monde, qu'on voit partout, dans les magazines, dans les publicités, qui est le lissage et l'uniformisation des corps et des visages féminins. Est-ce que vous considérez que votre travail, de ce point de vue, est engagé ?
Je pense que toute forme d'art est un engagement en soi. Donc tous les artistes sont engagés, quoi qu'ils fassent, quoi que soit leur esthétique. Je n'ai pas une esthétique militante, mais je pense que, enfin j'espère en tout cas, aider les autres à vivre ce que nous impose aujourd'hui notre monde. Alors vous parlez d'un phénomène actuel qui est effectivement cette espèce d'impérialisme de l'image, qui a des effets destructeurs, hein, sur le vivant lui-même. C'est sans doute ce que j'essaye de montrer ou de mettre ou de rendre sensible plutôt que de montrer d'ailleurs. Mais ça n'est pas une démarche discursive, c'est-à-dire que tout ça se fait à mon insu, si vous voulez. Je n'ai pas une posture de commentateur ou d'analyste.
Alors je vais poser la question un petit peu différemment, mais vous allez peut-être me répondre la même chose. La jeune photographe qui était là tout à l'heure, Pauline Rousseau, qui était en première partie, elle se met en scène souvent avec des hommes, ou elle photographie des hommes, et ce qui l'intéresse, c'est aussi d'être une femme, la femme œil, prenant en photo les hommes, alors qu'on est dans une société où c'est tout le temps l'inverse qui se produit, c'est l'homme qui prend en photo la femme muse, entre guillemets. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée et que vous continuez à vous poser en tant que femme photographe, Valérie Belin ?
Je me la pose pas en ces termes-là, mais je pense que en m'attachant justement à ce que vous appelez les stéréotypes, c'est une forme de résistance du fait que j'essaye de les déconstruire. Vous voyez, c'est plutôt un travail de déconstruction du stéréotype que j'essaye de mettre en place. Et ça me rappelle, j'ai terminé hier soir le livre de Annie Ernaux, Mémoire de fille, et je pense qu'elle a fait exactement le même travail avec ce livre, c'est-à-dire qu'elle a déconstruit ce personnage qui était elle. Il lui a fallu toute une vie pour le faire, et ce livre arrive à ce moment-là, et c'est un travail de déconstruction qu'elle a fait. Je pense que c'est assez similaire à ce que je fais aussi, je pense.
Ça veut dire que c'est vous, à travers ces visages que vous photographiez, c'est vous que vous déconstruisez vous-même, Valérie Belin, d'une certaine manière.
Je pense que oui. C'est une forme de déconstruction d'une image fausse. Voilà.
On a souvent l'impression que les photographes, et dans leur discours d'ailleurs le disent beaucoup, cherchent à creuser, à révéler le relief, l'intériorité dans les yeux des personnages qu'ils photographient. Vous, c'est vraiment exactement l'inverse. Vous essayez de rendre des surfaces. Comment est-ce qu'on désincarne techniquement une photographie, Valérie Belin ?
Alors écoutez, il y a plusieurs moyens. Au moment où je faisais des photographies avec un négatif noir et blanc, c'était principalement la lumière qui était l'opérateur central, et qui révélait la surface à travers le grain de la peau, à travers des brillances, et par défaut, non la profondeur, non la psychologie, non la narration. Ensuite, avec les évolutions du travail, la couleur est intervenue, et la couleur est venue comme un maquillage sur les choses, plutôt que comme un réalisme supplémentaire, et donc elle est devenue encore plus fausse que le noir et blanc l'était, si possible. Et puis aujourd'hui, avec l'outil numérique, les sujets eux-mêmes ont tendance à se désincarner, puisque je ne garde ni la couleur de la prise de vue, ni la texture de la prise de mon négatif, hein, qui soit de type numérique ou de type argentique, puisque je fais les deux. Donc il y a une espèce de virtualisation du sujet qui s'est installée depuis quelques années et qui est liée à la virtualisation de la vie elle-même, de l'outil, du process, en fait.
Merci beaucoup à vous, Valérie Belin. Je rappelle qu'on peut voir quelques pièces de vous ici à Arles. C'est à la galerie Arena, dans le cadre de l'exposition « Des gestes blancs parmi les solitudes ». Et que ce soir, à 22h, vous êtes l'invité de la nuit qui se déroulera au Théâtre Antique. Les rencontres d'Arles vont battre leur plein jusqu'au 25 septembre. Merci beaucoup à elles de nous avoir accueillis pour cette émission en direct de l'Espace Fanton. Et merci beaucoup au public. La grande table d'été, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi à 12h45 pour une semaine en direct du musée Calvet à Avignon. Je vous invite d'ailleurs à vous y rendre dès demain à 21h au musée Calvet pour un grand concert fiction avec Sid Matters. L'émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier, Boris Pinault, Anna Baron, Lila Bozès et Lucide Pertuis, à la réalisation Peyre et Legras, à la technique ici à Arles, Hervé Debreuil, Martin Guénard et Stéphane Poitvin, chargé de production Sandrine Bréchaud, et aussi un grand merci à Jean-Marc Clos. Je rappelle que vous pouvez réécouter et télécharger toutes nos émissions sur le site internet de France Culture et nous suivre sur les réseaux sociaux. À lundi !